Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
What we are asking is for a very large amount of our own money back.
We want our money back. Je veux qu'on me rende mon argent. Voilà ce que demandait en 1979 Margaret Thatcher aux Européens. Eh bien, 42 ans plus tard, on inverse les rôles.
Rendez-nous nos licences, c'est ce que demande la ministre de la Mer.
Et surtout les pêcheurs français qui, sans ces autorisations, ne peuvent pas jeter leur filet dans les eaux britanniques comme convenu dans l'accord du Brexit. Le problème, c'est que ces licences, le gouvernement de Boris Johnson les délivre au compte-gouttes quand ils ne refusent pas purement et simplement d'en accorder. C'est ce qui s'est passé hier pour 75 bateaux français. Trop c'est trop, ça fait 9 mois que ça dure, pestent les pêcheurs. Alors comment faire plier les Britanniques? Faut-il enclencher des mesures de rétorsion? Autant de questions que l'on posera à 6h10 à la ministre de la Mer, Annick Girardin. Dans l'actualité aussi, Omblin, l'inquiétude dans les magasins de jouets.
On s'attend à des ruptures de stock à Noël. 20% des jouets sont concernés. La faute aux composants électroniques fabriqués en Chine qui sont une denrée rare. La faute aussi aux porte-conteneurs, pas assez nombreux pour acheminer les jouets, des jouets venant de Chine aussi pour plus de la moitié, avec qui plus est des coûts de transport qui s'envolent depuis la crise du Covid. Est-ce qu'on risque de ressentir toutes ces difficultés d'approvisionnement lorsqu'on passera à la caisse de nos magasins? Et doit-on déjà, dès le 30 septembre, commencer nos achats de Noël? On sera à 5h40 avec Philippe Guédon, le directeur général de King Jouets. Il est aussi coprésident de la Fédération des marchands de jouets et articles pour enfants.
Nous sommes jeudi, et jeudi c'est gastronomie. Olivier Pouls va nous apporter du pain pour le petit-déj à 6h moins le quart, mais pas n'importe quel pain, non. Du pain au levain, moins de gluten, plus de goût, que demande le peuple? Eh bien le peuple demande ce qu'il va écouter dans votre partition Omblin.
Vous connaissez ce titre par cœur. Owner of a Lonely Heart en 1983 du groupe Yes, et bien nous serons 10 ans plus tôt lorsque les Anglais ont inventé le rock progressif. C'est bien ça, hein ? La partition de Yes à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Nous sommes ravis de vous accompagner avec tout d'abord la météo. Bonjour Anissa Adali.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Du soleil aujourd'hui, mais surtout du froid.
Ah ouais, alors ce matin, il fait très froid. Ça y est, nous les avons. Elles sont là, les premières gelées blanches. Et elles concernent, alors elles sont très localisées, elles concernent les vallées et les plaines du centre-est, mais on risque d'avoir des températures négatives, ça c'est sûr. Alors, 3 degrés à Épinal et Guéret, ce sont les températures relevées ce matin. 4 heures, 4 à Troyes et Beauvais, 5 pour Poitiers et Clermont-Ferrand, 7 degrés à Caen et Aurillac, couvrez-vous, 9 petits degrés pour Bordeaux et Paris, 11 à Biarritz, 13 à Tarbes et déjà 19 degrés à Nice. Alors dans le ciel, il faut quand même savoir que ce jeudi sera la plus belle journée de la semaine. Je vous conseille d'en profiter parce que alors ce week-end, ça va vraiment...
Oh non.
Ah non, mais ce week-end, c'est une catastrophe.
Oh bah non, oh bah non.
Voilà, je vous en parle pas.
Non,
vous retenez
le mot catastrophe. Alors attention, on a quelques brouillards dans le nord-est ce matin. Mais alors très vite, le soleil arrive. Il va briller sur l'ensemble du pays. Toute la journée, on aura 15 à 27 degrés.
Merci ou pas, Anissa Adadi. Place à l'info.
On ne tue pas le messager.
Avec le premier journal de ce jeudi 30 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Autour des adolescents de plus de 12 ans de montrer patte blanche, entrée en vigueur pour eux du pass sanitaire aujourd'hui. Face au refus de certains de se faire vacciner, ils optent pour des tests à répétition. Illustration dans ce journal avec une famille parisienne. Nouvelle hausse, mais celle-ci fait plaisir. Les salaires de 209 000 employés de l'aide à domicile vont augmenter à partir de demain. 150 à 300 euros mensuels supplémentaires. Le secteur qui peine à recruter espère ainsi attirer plus de candidats. Et puis à quel jeu joue le Mali? Bamako a demandé la présence de paramilitaires russes pour compenser, selon eux, le retrait des forces françaises. À Paris, on ne l'entend pas de cette oreille. Le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Le jour J pour les 12-17 ans, entrée en vigueur du pass sanitaire pour les adolescents aujourd'hui. Pour l'obtenir, le plus simple reste de se faire vacciner contre le Covid. Mais certains parents continuent de s'y opposer, ce qui ne va pas faciliter la vie de leurs enfants. Élise Dangean a rencontré une famille parisienne.
On tassera nos activités sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, cinéma, musée, théâtre, ce sera intensif.
C'est toute une réorganisation que s'apprête à vivre Marie et sa famille. Les tests antigéniques valables 72 heures vont entrer dans un quotidien déjà bien chargé. Et pour cause, elle et son mari sont vaccinés contre le Covid-19, mais refusent que leurs 2 filles le soient. Pas assez de recul, disent-ils. Une décision que Clémentine, l'aînée de 16 ans, ne voit pas d'un très bon œil.
Je me sens un petit peu exclue de toutes les activités parce que comme mes amies sont vaccinées, elles vont pouvoir faire plein de choses dehors, au cinéma ou au restaurant, et moi je vais être empêchée, donc ce sera assez compliqué.
Mais Clémentine n'a pas dit son dernier mot. À la maison, les tractations se poursuivent.
J'essaye aussi de la convaincre pour lui expliquer que pour le point de vue social, c'est un petit peu plus compliqué, et donc ça va être un petit peu pénalisant pour moi.
C'est pas négociable, non. Enfin, je veux dire, la santé contre le cinéma, pour moi, il n'y a pas photo.
Marie compte beaucoup sur une chose, que les restrictions sanitaires soient assouplies d'ici quelques semaines.
Le pass sanitaire qui devait s'arrêter le 15 novembre va finalement être étendu jusqu'à l'été. Le gouvernement veut se donner de la marge et pouvoir le réactiver face à une éventuelle nouvelle vague de Covid pendant la présidentielle. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre.
Ils vont enfin gagner davantage.
209 000 aides-soignants, infirmiers et aides à domicile toucheront 150 à 300 euros mensuels de plus à partir de demain, soit une revalorisation moyenne de 15% de leur salaire décidé par le gouvernement. Maud Descamps, c'est une excellente nouvelle pour les employés du secteur, mais aussi et surtout pour les entreprises qui peinent à recruter.
Oui, si on prend l'exemple de l'association d'aide à domicile en milieu rural qui emploie 94 000 personnes, chaque année ce sont 8 000 postes qui restent non pourvus faute de candidats, déplore son président Thierry Daboville. C'est 20% d'activité en plus à laquelle il ne peut pas répondre.
Nous priorisons les interventions parce que nous n'avons pas assez de salariés pour effectuer les services auxquels ces personnes âgées sont en droit d'attendre.
La revalorisation pourrait changer la donne. Avec un salaire moyen de 980 euros par mois, la hausse sera d'environ 150 euros. Mais pour Julien Maillet, vice-président de l'Union nationale de l'aide des soins et des services au domicile, qui est l'autre gros acteur du secteur, il faut travailler sur la précarité de ces métiers.
Temps partiel, des conditions de travail très difficiles. On subit une image assez dégradée parce qu'on est dans un secteur extrêmement précaire avec le chèque emploi service auprès de particuliers employeurs, et le grand public, lui, ne connaît pas toutes ces subtilité.
Cette hausse des salaires qui ne concerne que le secteur associatif fait grincer des dents le secteur privé commercial, confronté aux mêmes difficultés de recrutement.
Merci Maud Descamps.
On en vient à la colère hier au Sénat de Florence Parly.
La ministre des Armées recadre sévèrement les autorités maliennes 3 jours après les accusations d'abandon en plein vol de la France par le Premier ministre du Mali à l'ONU, justifiant les discussions avec le groupe Wagner pour assurer la sécurité des personnalités à Bamako, société paramilitaire russe présente en Libye et Centrafrique, accusée notamment d'exactions. Voici la réponse de la ministre au Sénat hier.
Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale qui est pourtant très engagée, il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires.
Et Jean-Sébastien Soldaini, on peut le dire, c'est un avertissement, mais c'est aussi une preuve de fébrilité face aux Russes.
Ce qui inquiète la France, c'est de voir Bamako tomber dans les mains du groupe Wagner. Le noyautage semble trop facile grâce à quelques soldats maliens aperçus en visite à Moscou, grâce aussi au service de maintenance des hélicoptères de l'armée malienne. Il est assuré par des mécanos russes, des pions placés ici et là, comme autant d'ambassadeurs du groupe Wagner, des mercenaires que les autorités imaginent embaucher pour tenir la capitale, car le nouveau gouvernement n'est pas sûr de sa population. Mais ce sera Bamako et rien d'autre, car sur ce que l'on sait d'eux, ces paramilitaires sont incapables de sécuriser le Nord Mali, vaste, en proie aux différents groupes armés. Un souci majeur pour la France, prête à quitter la zone si le contrat vient à être signé. Un contrat agité par les Maliens devant l'ensemble de la communauté internationale, une provocation qui revêt un double sens vu de Paris, c'est soit un appel au secours pour inciter la France à maintenir sa présence au Sahel, soit un coup de pression pour pousser les Européens à partir. La junte pourrait alors mettre en avant une situation sécuritaire dégradée et ainsi se justifier de ne pas organiser des élections début 2022.
Et Florence Parly a fustigé le calendrier des annonces maliennes qu'elle juge inacceptable et proprement indécente. Critique prononcée au moment même où un hommage national était rendu aux Invalides au sergent Maxime Blasco, tué
vendredi dernier au Mali.
La politique, Marine Le Pen poursuit sa campagne présidentielle en Gironde et tente de se démarquer face à Éric Zemmour.
Oui, avec un déplacement sur le thème de l'immigration, la candidate du Rassemblement national n'est pas, selon elle, opposée idéologiquement à l'immigration. Rupture nette avec Éric Zemmour, face à qui elle compte se démarquer. Et pour cause, ils ne sont plus qu'à 3 points d'écart dans les sondages. 16% d'intention de vote pour Marine Le Pen, 13% pour le polémiste, mais Marine Le Pen affiche un large sourire et ne laisse paraître aucune inquiétude.
Je suis en même temps en forme, énergique, dynamique et extrêmement sereine. Absolument aucune once d'inquiétude. C'est ça d'avoir l'expérience, qu'est-ce que je vous dise. Vous voyez, quand on n'a pas d'expérience, on peut parfois être fébrile, mais quand on a l'expérience, on sait qu'il suffit de travailler, d'aller sur le terrain et puis d'attendre que les choses reviennent à la normale.
Des propos recueillis par notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place.
Plus au nord, sur l'île de Léron, ouverture ce matin d'un débat public qui s'annonce tendu sur l'implantation au large d'un parc éolien en mer.
Oui, objectif, installer une cinquantaine d'éoliennes d'ici 2 ans, une centaine d'ici 4 ans. Mais sous condition, les habitants doivent approuver le projet. C'est pour cela qu'une concertation est lancée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de janvier dans les communes concernées. Experts et citoyens échangeront sur le sujet qui risque de créer des tensions car si les éoliennes sont souvent rejetées par la population, la zone choisie pose également problème, comme nous l'explique Laurent Bordereau, enseignant-chercheur en droit des côtes à l'Université de La Rochelle.
On pouvait difficilement choisir un pire site d'implantation. Le projet il serait localisé au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne sur la protection des oiseaux, mais également au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive sur les habitats naturels. Et de surcroît, pour couronner le tout, on se situe en plein parc naturel marin, lequel a été créé en 2015, et par ailleurs à proximité de réserves naturelles nationales. Donc le développement des énergies marines renouvelables, il ne peut se faire que dans le respect des aires marines protégées. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il paraît quand même assez invraisemblable ce projet.
Laurent Bordereau au micro de Louise Salé, journaliste environnement sur Europe 1.
On termine sur une note plus légère avec la BNF qui lance une revue trimestrielle, son nom Retro News.
Et elle s'associe aux éditions Lattès pour publier cette revue hybride entre le magazine et le livre. Elle visite l'histoire avec un grand H grâce à des coupures de presse, Nicolas Caro.
Plus de 200 pages et presque autant de photos et illustrations d'époque, Retro News se nourrit des archives conservées par la BNF pour explorer l'histoire par les articles de presse et faire résonner l'actualité d'aujourd'hui avec celle du passé. Comme la grippe espagnole, par exemple, en 1919, les journaux relaient les conseils d'hygiène et autres mesures de distanciation sociale et le problème du masque. Maïr Guven, le directeur de la publication de Retro News.
Les gens étaient contre les masques, notamment en France. Les journaux français disaient « les Anglaises acceptent de se masquer, mais les Françaises n'accepteront jamais ». Et en fait, comme les gens refusaient de respecter les obligations sanitaires, on a dû interdire le carnaval de Paris, on a dû interdire le jet de confettis, puisque les gens voulaient quand même jeter des confettis à l'occasion de ce carnaval. Et donc, ça faisait quand même écho à notre présent.
On voit donc des photos de policiers masqués, des caricatures, une infirmière et ses patients, comme une étrange impression de déjà-vu. Retro News explore aussi le monde criminel et l'évolution des mœurs, entre autres, de vrais morceaux d'histoire, 19 euros.
Merci Nicolas Caro. On le rappelle, Retro News, c'est la nouvelle revue trimestrielle de la Bibliothèque nationale de France.
Ou aussi appelée Bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un incontournable de la capitale. Merci beaucoup Alban Le Prince.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et mon pari gagnant sera le 607, The Revenant. Oubliez son dernier échec le 29 juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine où il s'annonçait comme un gagnant lorsqu'il chutait au saut du dernier obstacle. Son maître entraîneur François Nicole lui a laissé le temps nécessaire afin qu'il puisse se remettre de cette mésaventure et je sais qu'il a très bien travaillé chez lui à Saint-Augustin en Charente-Maritime. Dès lors ce chic cheval qui revient dans la discipline du steeplechase, une spécialité où il totalise pas moins de 3 victoires en seulement 5 tentatives, devrait pouvoir, dès cet après-midi, se réhabiliter. Alors notez bien, pour Auteuil, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 7, The Revenant.
The Revenant, quel joli nom. Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison, d'autant que dans moins d'une minute, c'est le pressing. Les articles à lire ce matin dans la presse racontés avec le sourire.
Et avec au menu ce matin, le plan du gouvernement pour limiter la vente d'animaux sur Internet. Un club de 10e division soutenu par une pluie de stars du ballon rond et des gratte-ciel en bois. Vaste programme, à tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12, bon début de matinée, on ouvre les journaux, c'est le pressing avec Martin Lange qui nous a rejoint comme chaque jour. Bonjour Martin.
Bonjour Omeline, bonjour Julien, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Martin. Alors, avant de vous raconter les articles que l'on a choisis, un rapide coup d'œil tout d'abord sur les unes de vos journaux. Rhume, grippe, gastro, le retour, titre aujourd'hui en France. Avec le recul du Covid et des gestes barrières, les maladies de l'automne reviennent en force. Éolien au nucléaire, l'énergie dans la bataille de la présidentielle, peut-on lire à la une du Figaro qui a analysé à ce sujet les programmes des différents candidats. Et puis, fanatique de l'Europe, c'est le titre à la une de l'équipe, alors que l'Olympique de Marseille affronte ce soir les Turcs de Galatasaray en Ligue Europa. Voilà pour les unes. Omblin, je me tourne vers vous.
On va parler à 5h40 du risque de pénurie de certains jouets à Noël avec le directeur de King Jouets. Mais tout de suite, il est question d'un tout autre genre de cadeau qui n'est pas un jouet, n'en déplaise à certains sites internet qui le classent dans cette catégorie, ce qui franchement est ahurissant. Figurez-vous que lorsque vous tapez sur internet idée cadeau, vous pouvez tomber sur des catalogues où au milieu des poupées et des voitures de pompiers, vous trouvez un chiot mignon ou un petit chaton à croquer, sans parler des sites de petites annonces sur lesquelles pullulent des animaux à vendre. Voilà, le gouvernement entend bien lutter contre ces pratiques. Le Parisien aujourd'hui en France dévoile en exclusivité les mesures que proposera le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie au Sénat ce jeudi. Vous savez que les sénateurs se penchent dès aujourd'hui sur la loi contre la maltraitance animale. Parce que là, on ne parle pas d'une famille classique, hein, gentille, respectueuse des animaux, dont le chien ou le chat vient d'avoir une portée de 6 ou 7 bébés, qui, au lieu de passer une annonce pour les donner, demande une petite rétribution, ce qui, au passage, est illégal. Hein, si on n'est pas signalé au préalable à l'administration, il faut avoir un numéro d'entreprise, notamment.
Absolument. Bon.
Alors ici, on parle de filière illégale. Des trafics d'animaux arrivent en troisième position après les trafics de drogue et les trafics d'armes. Il n'est pas question non plus de lions, hein, mais bel et bien de chiots, des malinois ou des shiba inu, hein, qui sont très très précis, sont tout
c'est
petits.
C'est des petits chiens japonais, ouais, qui ressemblent à des petites poupées. Ouais.
Ils sont très mignons. Le gouvernement souhaite rendre responsables les sites qui doivent contrôler l'identification des animaux. Aucune annonce ne sera publiée sans un contrôle préalable au moyen d'un fichier d'identification, avec l'obligation notamment de mentionner l'âge, le sexe, le nombre d'animaux dans la portée. Et si des animaux inconnus sont trouvés, eh bien les sites d'annonce devront payer une amende de 1 500 €. Ça, c'est pour la première fois. Puis après, c'est plus cher, hein, 3 000 € si c'est une deuxième annonce, etc. Ces mesures sont évidemment jugées insuffisantes par la SPA qui réclame la fin purement et simplement de la vente d'animaux sur les sites marchands.
Ce serait plus cohérent.
Oui, et puis comme ça, au moins, on ne se poserait plus la question. Savez-vous combien d'annonces concernant la vente d'animaux de compagnie ont été publiées sur le site Le Bon Coin en 2019? C'est ahurissant encore. 420 000 annonces, juste des animaux. C'est-à-dire dans aujourd'hui en France.
Merci Omblin. Martin, quel article avez-vous retenu?
Alors, quel est le point commun entre Ronaldinho, Zidane et Franck Ribéry?
Je sais, ils sont footballeurs.
Mais encore.
Ah, bah voilà, ça s'arrête
ils
là.
Sont retraités.
Mais encore.
Ribéry n'est pas retraité.
Ribéry, pas encore. Non, ils sont tous supporters du FC Grésil, un petit club de la banlieue dijonnaise, un pensionnaire de la 10e division française et qui, depuis quelques semaines, reçoit des messages de soutien des plus grandes stars du ballon rond. Ça a commencé début septembre avec le Brésilien Ronaldinho qui publie cette vidéo sur les réseaux sociaux.
Bonjour mes amis, bon championnat à vous, à toute l'équipe là des Grésils.
Suivent le sélectionneur de l'Italie, championne d'Europe, Roberto Mancini, l'anglais Chris Waddle ou encore Franck Ribéry.
Salam, c'est Kaiser. Bonne saison à tous les joueurs du Grésil et Football Club. Force à vous.
C'est improbable quand même. Pardon, ciao.
Et puis, cerise sur le gâteau, un certain Zinedine Zidane laisse aussi un message pour les joueurs du FC Grésil.
Bonjour, c'est Zizou. Bonne saison à vous tous, les joueurs du Football Club des Grésils. Allez, ne prenez pas beaucoup de buts et vous en mettez beaucoup cette année. Allez, à bientôt. Bon courage.
Ça paraissait évident. Mais...
C'est incroyable. Pourquoi ce soudain intérêt des grandes stars pour ce petit club?
Alors, grâce à un nom entouré de mystère, un Scofield, référence au personnage de Prison Break. Scofield, c'est un ancien agent de joueur qui connaît visiblement beaucoup de monde dans le milieu du foot et qui a grandi au Grésil. Aujourd'hui reconverti dans l'événementiel, il est resté très attaché à son quartier d'enfance. Il est même devenu président d'honneur du club et c'est lui qui a contacté toutes ces stars. C'est en tout cas ce que raconte le président du club, Abdallah E, au magazine L'Équipe. Un jour, il m'a prévenu que Ronaldinho Mourinho allait nous envoyer un petit message. Je n'y croyais pas tellement, ça semblait énorme. Et pourtant, c'est arrivé. Suivent ensuite les Waddle, Pioli et autres Zidane, de quoi rameuter tous les médias du pays autour du club. Mais impossible de rencontrer Schofield, hein, il refuse toute interview. De son côté, le président savoure, hein, les jeunes ont les yeux qui brillent. Et puis ça permet aussi de restaurer un peu l'image de ce quartier difficile, écorné à l'été 2020 par des affrontements communautaires. Je ne sais pas si vous en souvenez. Abdellah Hay se doute, hein, que le soufflet va finir par retomber, mais il s'attend encore à d'autres surprises de la part de son ange gardien. Et pourquoi pas une star à la buvette un dimanche de match. Le FC Grésil, un petit club soutenu par Zidane et Ronaldinho, s'est à retrouver dans le magazine L'Équipe.
Merci beaucoup Martin. Une question à présent. Et si le bûcheronnage était un métier d'avenir ?
Ils viennent pour couper du bois, car ce sont des coupeurs de bois, ils aiment.
C'est un sacré répertoire.
Ouais, c'est impressionnant. Ah,
ça fait les bras, effectivement. Et surtout, couper du bois, ça fait du bien à la planète et à nos villes. Enfin, les nôtres, pas encore. Le béton y est toujours roi, mais en Scandinavie, en revanche, le bois est devenu depuis quelques années le matériau de construction qui progresse le plus. En Suède, par exemple, 20% des nouvelles constructions sont en bois. Et on ne parle pas là de jolis chalets ou de cabanes au bord du lac, non, mais d'immenses tours qui se multiplient, nous apprend ce matin Le Figaro. Bienvenue à...
Skellefteå.
Oui, alors je ne suis pas risqué à prononcer le nom de cette ville du nord
c'est
de la Suède. Skellefteå, une petite ville, mais avec une grande tour inaugurée au début du mois. 80 mètres de haut, 20 étages, une façade de verre et pour le reste, les murs, le sol et même les cages d'ascenseurs, tout est en bois. Une première mondiale qui attire d'ailleurs de nombreux visiteurs anxieux dont le premier réflexe est de poser la main sur la structure pour vérifier que ça ne bouge pas. Et cette tour est loin d'être la seule, il en pousse également en Norvège où la plus haute culmine à 85 mètres. C'est, pour vous donner une idée et rester sur votre thème, Martin, la longueur d'un terrain de foot. Le bois en Scandinavie est aussi utilisé pour construire des gares, des ponts, des quartiers d'habitation et même des parkings souterrains. Tout ça grâce à de nouvelles technologies comme le bois laminé croisé, un assemblage de planches qui permet d'obtenir des panneaux ultra solides, résistants au feu et façonnables sur commande. Résultat, les chantiers deviennent beaucoup plus simples et rapides. Le gain de temps est de 50% par rapport à une construction classique. Il n'y a plus qu'à visser les éléments entre eux. Autre avantage du bois, en plus d'être un excellent isolant, c'est beaucoup plus léger que le béton et l'acier. Voilà comment à Stockholm, des immeubles d'habitation ont été construits au-dessus d'une dalle couvrant une autoroute, comme le Parc des Princes. C'eût été impossible en utilisant du béton 5 fois plus lourd et au passage ultra polluant. Ben voilà, j'ai terminé.
Mais oui, mais alors pourquoi on s'y met pas tous ?
Bah pourquoi ? Bah on va poser la question à nos gouvernants.
Du bois anti-inflammable, c'est quand même dingue. Du bois qui
brûle
pas.
C'est la technique. En fait, ils expliquent que le bois noircit, mais qu'en son cœur, les fibres résistent, et, enfin, en tout cas avec ce lamellé-collé. Ouais. Alors que le béton, bah, ça éclate et le fer, et ben, ça fond.
Vous êtes extrêmement calé en bâtiment. Et en...
Mais j'ai loupé ma vocation.
Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est ça. Merci beaucoup. Bah, reconversion possible. Merci Julien. Merci à tous pour ce pressing. Et Martin, vous revenez dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Vaccination complète ou test négatif, le pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui pour les adolescents de 12 à 17 ans. Le 23 septembre, 6 ados sur 10 étaient totalement vaccinés contre le Covid. Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 12,6% demain. Nous vous le révélions hier sur Europe 1. Le gouvernement réfléchissait à des pistes pour aider les Français à payer leurs factures et il a tranché. Jean Castex devrait dévoiler les arbitrages ce soir à la télévision. Autre hausse, cette fois-ci très attendue et décidée par le gouvernement, celle du salaire de 209 000 employés du secteur de l'aide à domicile à partir de demain. 150 à 300 euros mensuels supplémentaires, soit une revalorisation moyenne de 15%. L'achat d'un chat ou d'un chien se réfléchit pour réguler la vente d'animaux sur Internet. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, présente aujourd'hui au Sénat des mesures. Il proposera notamment d'engager la responsabilité des sites en imposant la vérification du puçage des animaux proposés.
Europe 1. Il est 5h21 et comme chaque matin à cette heure-ci sur Europe 1, eh bien on donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France. Ce matin, Julien, on parle du carburant des Lefto, le café.
Bonjour Jean-Pierre Blanc.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur général de Malongo, le leader français du café équitable. Et si on parle de vous ce matin, c'est parce que vous avez relocalisé la production de vos machines à dosettes. Vous venez d'ailleurs de lancer un tout nouveau modèle Made in France.
Oui, c'est vraiment une nouveauté. C'est une volonté de la marque. Et surtout de ce que j'avais observé, puisque nous faisons des doses en papier naturel et qui nécessitaient des machines qui étaient fabriquées en Chine. Et nous avons décidé de rapatrier la totalité de la production en France. Ça a été un travail de 4 ans. J'ai embauché 4 ingénieurs développement pour une machine alors que nous sommes torréfacteurs. Et donc c'est un enjeu très important, et cette machine est d'origine France garantie et donc est fabriquée en Vendée.
Alors ce qui était important également, c'est le prix de cette machine, 119,90 €, soit le même tarif, si je ne me trompe pas, qui était demandé pour vos modèles fabriqués en Chine.
La différence entre les deux types de modèles, c'est que les modèles qui étaient fabriqués en Asie, comme tous les constructeurs, étaient soumis à des promotions importantes et donc en facial se retrouvaient beaucoup plus bas. Là, l'idée, c'est de donner un prix juste pour tous les intermédiaires, donc celui qui produit, celui qui distribue, et ne pas faire payer aux consommateurs, par une machine semi-gratuite, des doses beaucoup plus chères. Donc c'est l'enjeu, c'est d'avoir une machine à 119 €, prix public consommateur, mais surtout, on offre aux consommateurs une garantie de 5 ans, un pack tranquillité de 3 ans supplémentaires, qui lui permet d'avoir un échange standard à domicile en 24 ou 48 heures, sans aucun frais, directement chez le consommateur.
Comment avez-vous réussi ce tour de force, une machine fabriquée en France et dont le prix n'explose pas ?
La difficulté, c'était de ne pas fabriquer comme on fabrique en Asie. L'idée, c'est je réduis le nombre de pièces de cette machine, puisqu'on est passé de 140 pièces à 70 pièces. Et donc, on facilite à la fois le prix de la matière, moins de matière, et à la fois un prix de montage beaucoup plus efficient.
Donc, c'est possible de produire en France au même prix ?
Oui, je pense qu'on essaie de le prouver et d'apporter aux consommateurs à la fois la qualité du produit, c'est-à-dire l'extraction de qualité, et à la fois la durée de vie, puisque cette machine qui est garantie 5 ans va avoir après une seconde vie. Donc on est en train de monter en place des ateliers pour les rénover complètement et les remettre dans un deuxième circuit. Et ensuite seulement, quand ils auront fait 10 ans ou 15 ans, on démantèlera la machine et on séparera toutes les pièces pour recycler les pièces indépendamment.
En revanche, toutes les pièces qui composent la machine ne sont pas produites en France.
Bien entendu, puisqu'il y a des matériaux qui sont produits que dans deux usines qui ne sont pas en France, malheureusement. Et donc, nous avons 60% de pièces et main-d'œuvre françaises, ce qui nous donne l'appellation Origine France garantie, puisqu'il faut 50% pour avoir cette appellation. Et c'est déjà un tour de force, puisque malheureusement, beaucoup de choses ne sont plus fabriquées en France.
Un tour de force qui vous donne la satisfaction, j'imagine, aussi de créer de l'emploi. J'ai lu que 30 personnes ont été recrutées dans l'usine en Vendée où vous sous-traitez la fabrication de cette machine.
Oui, c'est 30 emplois de plus. Ça va être des emplois de plus après en technique et en relais de vente chez nous. Donc oui, c'est de l'emploi créé. C'est des sous-traitants aussi qui se trouvent dans un rayon de 50 km qui aussi créent de l'emploi. Donc c'est toujours l'idée de reconstituer un écosystème qui permette à celui qui produit de vivre avec des compétences élargies, et ce qui n'était plus le cas jusqu'à présent.
Ce n'est pas un pari risqué de proposer une machine facturée 119 € quand certains de vos concurrents, vous l'avez dit, offrent la leur pour 1 € en échange d'un abonnement mensuel pour les dosettes ?
Oui, je pense que le consommateur a changé. Il a compris que rien n'est gratuit. Et quand on dit c'est gratuit, vous le payez autrement. Nos prix de dosettes sont les moins chers du marché, puisqu'elles sont entre 20 et 25 centimes, alors que les concurrents sont plutôt entre 35 et 40. Donc vous avez eu ce calcul de dire c'est moins cher d'acheter une machine à 119 €, qui est un prix raisonnable. On peut l'acheter 4 fois sans frais, 12 fois sans frais, et en plus on a ce service après-vente à domicile, c'est-à-dire on n'a pas d'impact supplémentaire sur le prix de la machine pendant une longue période, et c'est des machines qu'on a testées à 15 000 cafés. Donc c'est-à-dire que logiquement, si vous prenez 2 cafés par jour, elles peuvent durer plus d'une quinzaine d'années.
Et qu'on soit bien d'accord, les dosettes, c'est un format propriétaire, on ne peut pas utiliser d'autres marques dans cette machine ?
Dans cette machine va bien sûr les doses Malongo qui sont des doses propriétaires, et nous avons des marques distributeurs, Carrefour et Casino, qui vont dans cette machine également.
Merci beaucoup Jean-Pierre Blanc, patron de Malongo, de nous avoir partagé votre initiative, le lancement d'une machine à café Origine France garantie, fruit de la relocalisation de votre production. On vous souhaite qu'elle se vende très bien, cette machine. À bientôt
Merci
sur Europe 1.
Beaucoup. merci beaucoup. Merci.
Bonjour, bon matin, merci de vous réveiller avec nous. Nous, c'est aussi le groupe Texas, emmené par Charlene Spitris et Mr. Hayes sur Europe 1.
Texas sur Europe 1, le groupe écossais de retour avec un 10e album intitulé High, sorti en mai dernier, dont est issue cette chanson Mr. Hayes, Texas, qui sera en concert le 15 avril prochain au Zénith de Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il s'appelle Mr. Pulse, Olivier Pulse, et il arrive dans un quart d'heure avec un diabolique pain au levain. La gastronomie, comme chaque jeudi, au menu de votre prescription culture. Et puis Omblin, à 3 mois des fêtes de fin d'année, il est déjà temps, visiblement, de penser aux jouets que déballeront nos enfants sous le sapin.
Oui, il va pas falloir cette fois-ci vous y prendre à la dernière minute. On craint de plus en plus une rupture de stock pour certains jouets, en cause le manque d'approvisionnement de certaines matières premières, notamment les composants électroniques. Le problème aussi vient des porte-conteneurs. Les jouets viennent de Chine pour 57% d'entre eux. Alors non seulement les bateaux depuis la crise du Covid sont moins nombreux, mais les coûts pour acheminer les jouets ont été multipliés par 7, imaginez. On en parle dans 10 minutes avec le directeur général de King Jouets.
Pas de King pour la météo, mais une Queen. Queen Anissa Haddadi pour vous servir. Anissa, on a bien retenu ce que vous nous avez dit il y a une petite demi-heure. Aujourd'hui est la plus belle journée de la semaine. Ce qui veut dire implicitement que le reste...
Bah ça va pas être terrible, mais ne pensez pas, ne soyez pas dans le futur, Julien. Profitez de l'instant présent, puisqu'aujourd'hui on va avoir un temps sec et ensoleillé toute la journée. Alors attention tout de même ce matin, restez prudents. On a, avant l'arrivée du soleil, sur la Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes, le Val-de-Saône, l'Auvergne, la Lozère, on a pas mal de brouillard et de nuages bas ce matin. Sur les Pyrénées, le ciel est un petit peu plus couvert, mais au fil des heures, le soleil domine et c'est la plus belle journée de la semaine, vous le disiez. L'après-midi est très lumineuse, avec du mistral dans la vallée du Rhône, c'est la fin de la tramontane, ce qui va se calmer dans la journée. Et puis on a toujours ce vent d'ouest qui souffle sur les côtes de la Manche. Bon, même si la journée est belle, qu'on a beaucoup de soleil, on est sous l'influence d'une masse d'air frais qui nous vient des îles Britanniques. Et du coup, ce matin, on a les premières gelées blanches dans les plaines du nord ou du centre-est. On a 2 degrés à Guéret, 3 à Épinal, 4 à Metz, 6 degrés à Dijon et Tours, 8 pour Paris, 10 à Dunkerque, 12 à Pau et déjà 19 degrés à Nice. Ce week-end, c'est la cata, on attend des pluies très importantes et peut-être même un épisode Cévenol, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler.
La météo du présent et non du futur. Merci Votre Majesté. Très bon réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1, votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Préparez les fidèles au choc des révélations. Le rapport d'enquête sur la pédophilie au sein de l'Église catholique française sera publié mardi prochain, mais l'on sait déjà que les victimes se comptent par milliers. Le sujet va être abordé dimanche dans toutes les paroisses du pays. Le pass sanitaire devient obligatoire dès aujourd'hui pour les mineurs âgés d'au moins 12 ans et 2 mois. Cette mesure est-elle efficace pour lutter contre l'épidémie? Élément de réponse dans ce journal. Les Républicains désigneront leur candidat pour la présidentielle le 4 décembre lors d'un congrès d'investiture. Michel Barnier, très loin dans les sondages, croit toujours en ses chances. Et puis Marseille, sous pression avant le match contre Galatasaray ce soir en Europa League. Plusieurs milliers de supporters turcs sont attendus au Vélodrome.
Europe
Europe 1.
Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est une enquête dont on redoute les conclusions. Mardi prochain, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique rendra son rapport. C'est peu dire qu'il est attendu. Plus de 6500 témoignages recueillis, 2 ans et demi d'instruction et une certitude désormais. On va dépasser les 10 000 victimes. Ce chiffre révélé en mars dernier avait déjà provoqué un choc chez les fidèles. On serait encore loin du compte. D'où la volonté de prendre les devants avec la lecture d'une lettre dans toutes les paroisses du pays dimanche, Virginie Riva.
Oui, car l'Église le reconnaît, les catholiques sont soit fatigués d'entendre parler de pédophilie, soit ont complètement oublié le travail de la commission Sauvé, qui sera dévoilée mardi. Et pourtant, il risque de provoquer un choc. Les évêques avaient bien tenté de sensibiliser les fidèles qui ont reçu cet été une lettre, mais elle n'a pas été lue. L'idée dimanche dans toutes les paroisses est donc de prier pour les victimes et que chaque prêtre, s'il le souhaite, parle du sujet à la fin de la messe. Père Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
L'idée, c'est bien sûr d'abord de prier pour les personnes victimes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l'Église. Et puis, elle est aussi pour nous préparer à le recevoir avec humilité, beaucoup de compassion et aussi détermination. Ce rapport aidera à ce que l'Église continue de faire de l'Église une maison sûre.
Dans le texte qui sera lu, les prêtres veulent rappeler que l'Église est commanditaire de l'enquête, rappeler également ce qu'elle a fait en matière de lutte contre la pédophilie. Le texte qui parle de la remise de ce rapport comme d'une épreuve de vérité, d'un moment rude et grave.
Virginie Riva du service société d'Europe 1.
Nouvelle étape dans la mise en place du pass sanitaire. Il est désormais obligatoire pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois.
Les 2 mois ont leur importance. Le gouvernement voulait laisser le temps aux adolescents qui fêtaient leurs 12 ans fin septembre d'obtenir un schéma vaccinal complet. À partir d'aujourd'hui, ils seront soumis aux mêmes règles que les adultes. Pass sanitaire obligatoire dans tous les lieux de vie et pour les événements qu'il exige. 71% des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose. Cette mesure permettra d'accélérer les choses selon Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM.
On est déjà à un taux, assez élevé, mais ça va sans doute inciter encore davantage de personnes de cette tranche d'âge à être vaccinées. Ça contribue à diminuer la circulation du virus. On est près d'atteindre un taux d'incidence de 50 pour 100 000, globalement, en France. Donc voilà, ça ne peut que améliorer la situation. En sachant que voilà, ça reste un groupe de la population susceptible de transmettre. Hein, les adolescents, finalement, le risque de transmission est à peu près le même que pour les adultes. Hein, donc, ça va contribuer encore à améliorer la situation.
Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM avec Élise Dangean. Le gouvernement veut maintenir la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, si besoin. Le Conseil des ministres du 13 octobre se saisira de la question avant le dépôt d'un projet de loi pour obtenir sa prolongation.
La campagne pour la présidentielle et à droite, la course à l'investiture s'intensifie.
Le congrès du parti prévu le 4 décembre désignera le candidat officiel des Républicains. Cela pourrait se résumer à un duel entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, régulièrement cité parmi les favoris dans les sondages. Mais un challenger continue d'y croire, c'est Michel Barnier, l'ancien commissaire européen mis sur son programme et sa fidélité au parti pour faire la différence, Alexandre Chauveau.
Oui, Michel Barnier, c'est en quelque sorte le pari de la compétence et de la fidélité. Ses équipes sont confiantes sur ses chances de victoire, pariant sur le fait que les adhérents LR voteront pour l'un des leurs, qui, contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ne les a jamais quittés. L'ancien commissaire européen s'organise. Son QG est au 4e étage d'un immeuble situé juste derrière l'Élysée. Il travaille d'une quinzaine de salariés et bénévoles, chargés de piloter sa campagne, de récolter les dons et d'aller chercher les parrainages. Ils ont d'ailleurs reçu hier soir la visite de leur champion, de retour de Londres où il présentait son livre sur le Brexit traduit en anglais. L'international, c'est son point fort. Sa stature a déjà convaincu Laurent Wauquiez qui, sans le soutenir officiellement, lui voue un immense respect, ainsi qu'une 60aine de parlementaires dont le nom sera bientôt dévoilé, symbole de la crédibilité du personnage Barnier en interne et de son programme. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy prévoit notamment un moratoire sur l'immigration et souhaite imposer la souveraineté juridique de la France vis-à-vis de l'Europe.
Alexandre Chauveau, Jean Castex sur TF1 ce soir à 20h, le Premier ministre devrait annoncer une série de mesures pour limiter les effets de la hausse des prix du gaz afin de préserver le pouvoir d'achat des Français. Selon nos confrères d'aujourd'hui en France, Le Parisien, il pourrait encore augmenter de 15% le 1er novembre prochain. Le chef de l'exécutif pourrait proposer un gel des augmentations sur les tarifs réglementés. Le rattrapage serait différé dans le temps.
Les sujets de discorde entre Paris et Londres sont nombreux ces dernières semaines. Dernier dossier en date, celui de la pêche.
Les crises succèdent aux crises. Après l'affaire des sous-marins australiens, la France et la Grande-Bretagne s'affrontent sur la question de la pêche. Les Britanniques ont revu à la baisse le nombre de licences permettant aux bateaux français de venir pêcher dans leurs eaux. Inacceptable pour Paris qui brandit les accords signés dans le cadre du Brexit et demande à ses partenaires européens de faire front commun contre Londres.
Rendez-nous nos licences, c'est ce que demande Annick Girardin, la ministre de la Mer, qui sera notre invitée tout à l'heure à 6h10. La Corée du Nord multiplie les tirs de missiles depuis un mois. Les Nations Unies s'emparent du problème avec une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
On ne sait pas encore si le Conseil adoptera une déclaration commune. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la tension est encore montée d'un cran entre Pyongyang et Washington. Le régime nord-coréen rejette la proposition américaine d'engager un dialogue et accuse Joe Biden de poursuivre la même politique hostile que son prédécesseur. L'état d'exception décrété dans toutes les prisons d'Équateur après une série de massacres entre gangs rivaux dans un centre pénitentiaire sur fond de trafic de drogue. Au moins 100 morts et une cinquantaine de blessés. Les détenus se sont affrontés avec des armes à feu.
Football, Marseille reçoit Galatasaray ce soir en Europa League et le spectacle ne sera pas uniquement sur le terrain.
Il sera aussi dans les tribunes. 45 000 spectateurs attendus ce soir au Vélodrome. Ambiance garantie, d'autant que les supporters turcs réputés pour leur ferveur devraient venir en nombre, Stéphane Burgat.
C'est un match à risque, tout est mis en œuvre pour éviter les débordements par l'OM. Déjà, puisque la billetterie permet aux sympathisants de Galatasaray de s'identifier au moment de l'achat pour être placé dans un parcage visiteur de 3400 places, sécurisé avec une zone tampon. La préfète de police enfin a pris deux arrêtés pour interdire les engins pyrotechniques et surtout les défilés de supporters aux abords du stade. Le dispositif policier sera important en ville comme dans les transports en commun et en conséquence, eh bien, les supporters marseillais sont plutôt rassurés et enthousiastes à l'image de Thierry.
Les vocalises, on va se les casser entre guillemets, oui. Après, je pense qu'on peut s'attendre à une grosse ambiance. Voilà, comme d'habitude, le why, comme on dit à Marseille. Comme à chaque fois, quand les Turcs se déplacent en Coupe d'Europe, il y a toujours un gros contingent de Turcs de tous les pays européens qui se déplacent. Donc je pense que ça va faire du bruit, quoi, ouais. C'est certain même.
Et la rivalité sera surtout sur le terrain puisque l'OM et Galatasaray vont se disputer ce soir la première place de leur groupe. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Marseille-Galatasaray ce soir à 21h au Vélodrome. Deux autres clubs français sont engagés cet après-midi. Monaco se déplace sur le terrain de la Real Sociedad. Lyon reçoit Brøndby. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 18h45. Enfin hier en Ligue des Champions, Lille a été battue 2-1 par le RB Salzbourg et hypothèque ses chances de qualification pour la seconde phase.
Défaite également 3-0 pour le FC Barcelone sur la pelouse du Benfica. Décidément, la vie sans Messi, c'est pas la même chose. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et les pronostics du Quintet. Merci Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil que se disputera ce Quintet, une course de haie handicap réservée exclusivement aux chevaux âgés de 4 ans. Et parmi les 16 partants, j'ai retenu les numéros 2 Inside Montliou, 10 Guépard du Berlet et 1 Colbert du Berlet, respectivement 1er, 3e et 5e, d'un handicap similaire couru le 19 juin à Auteuil sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi et qui depuis ont été préparés avec soin par leur entourage respectif en vue de ce quintet particulièrement bien doté puisque le propriétaire du cheval gagnant empochera un peu plus de 42 000 euros. On leur opposera les deux pensionnaires de François Nicole, Six Swan, le numéro 7, et Martin Spirit, le numéro 9, qui, jugés sur leur meilleure performance, me semblent être ici très compétitifs pour s'adjuger une place dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 12, Malbec du Matin, 4, Anne-Laure Alas, et 3, Enjoy for Life, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 10, As, 7, 9, 12, 4 et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h40, vous restez avec nous. Va-t-on manquer de jouer sous le sapin à Noël? On en parle tout de suite avec le directeur général de King Jouet.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est 5h41 et voilà une question qui inquiète les fabricants et les magasins de jouets à 3 mois des fêtes de fin d'année. Les cadeaux que vos enfants vont expressément demander au Père Noël seront-ils bien sous le sapin cette année? On en parle en ligne avec Philippe Guédon, le directeur général de King Jouets.
Bonjour Philippe Guédon.
Bonjour.
L'automne commence à peine et on doit déjà penser aux traditionnelles courses de Noël. Et cette année, plus que les autres, pour éviter de rentrer bredouille à la maison, il va falloir éviter de s'y prendre à la dernière minute. Rupture de stock annoncée pour certains jouets, 20% sont concernés. La perspective est loin d'être réjouissante. Philippe Guédon, de quel jouet parle-t-on exactement ?
Alors, sans être anxiogène, c'est un peu tous les jouets qui sont concernés, notamment ceux qui sont fabriqués en Asie, hein, puisque pour ce qui concerne l'Asie, on a aussi une problématique non seulement de matières premières, mais aussi d'acheminement au travers des containers. Et on peut dire peut-être que les jouets avec beaucoup d'électronique, puisque le secteur de tout ce qui concerne les composantes électroniques est particulièrement touché, donc tous les jouets avec de l'électronique seront peut-être potentiellement un peu plus rares sur le Noël à venir.
Et quelles sont les raisons de ce manque d'approvisionnement cette année, en particulier de ces jouets électroniques ? Quelle est la cause ?
Alors, ce que vit la filière, d'autres secteurs le vivent aussi, hein. On a l'addition de plusieurs causes. Le côté un peu stop and go lié à la période de Covid qu'on vient de traverser, on va essayer d'en parler au passé maintenant. Deuxième cause, c'est tout ce qui concerne les matières premières. Où clairement, là aussi au niveau mondial, et pas que pour le jouet, la reprise étant peut-être au-delà de ce qui était attendu, il y a une problématique de raréfication de certaines matières premières. Et puis la troisième, et qui est la propre à ce qui est fabriqué en Asie, bon, le jouet malheureusement, allez, on va dire les deux tiers proviennent d'Asie, on espère que ce sera différent demain, mais en tout cas c'est la photo aujourd'hui. Et là on a des problématiques de containers, de raréfication, puis d'augmentation de prix qui sont complètement hors proportion. Et tout ça fait qu'on est avec un risque d'avoir des ruptures cette fin d'année, on les estime aux alentours de 20%. C'est peu, c'est beaucoup plus qu'habituellement. Bon, maintenant, il faut quand même rassurer vos auditeurs, les enfants auront des jouets pour Noël.
Alors pour les porte-containers, le tarif a été multiplié par 7.
C'est une explosion des prix, on n'a jamais connu ça. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on demande à ce qu'une mission parlementaire prenne ce sujet pour regarder ce que sont les réelles causes, ce qui peut être fait aussi. Les Américains ont lancé des actions de ce type. Ce n'est pas encore fait au niveau européen, au niveau français. Il est temps de mettre le nez là-dedans. Il y a quelque chose de pas normal. Au final, tout ça, c'est quand même potentiellement le consommateur final qui va le payer. Hein. Nous-mêmes, comme distributeurs ou vendeurs, on va en prendre une partie dans nos marges. Mais enfin, il y a une partie qui va se répercuter dans nos prix. Donc, cette inflation des containers, on parle en équivalent d'un pied. C'est un peu technique, mais c'est la taille d'un, d'un container. On était sur des prix l'année dernière qui tournaient autour de 2 000 $. Cette année, on dépasse les 10 000 $, parfois 15 000, pourquoi pas 20 000. Enfin, il n'y a pas de vraie justification à ça.
Si ce n'est une rareté, vous n'avez pas d'explication pour ça ? Comment ça se fait que ces prix aient flambé en une année ?
Alors, le rareté, et puis aussi un peu de spéculation, peut-être à certains niveaux. C'est là où il n'est pas légitime que certains s'enrichissent indûment, profitant de la situation.
Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les jouets européens, et a fortiori pour les jouets français ?
Je pense qu'en effet, qu'en toute difficulté, on peut trouver un peu d'optimisme et que ça va sans doute amener dans le temps, là aussi, ne soyons pas naïfs, mais sans doute des rééquilibres et qu'aujourd'hui, des industriels vont se poser la question de savoir si une part de leur production ne pourrait pas revenir, si ce n'est en France, en tout cas en Europe. Espérons-le, souhaitons-le. Bon, après, il faut qu'il y ait d'autres conditions qui permettent aussi ce retour de la production, plus de proximité, mais je suis convaincu que ce qui se passe actuellement et donc, ce sont un peu les suites de ce Covid vont amener certains industriels à réfléchir sérieusement au sujet.
Est-ce qu'il faut anticiper et faire nos achats dès maintenant pour Noël ?
Alors, c'est ce qu'on fait nous comme intervenant dans la filière. Chez Kingway, on a un niveau de stock à date qui, alors qu'il y a des ruptures, notre niveau de stock est plus important que l'année dernière. Donc ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on se dit qu'il vaut mieux faire entrer la marchandise maintenant de manière à pouvoir servir au mieux et limiter l'impact de ce risque de rupture. Et je pense que les consommateurs, bon, sans parler de le faire dans le week-end qui vient, mais en tout cas, je pense qu'il faut éviter cette année d'être sur les achats tardifs de début décembre, mi-décembre, parce que là, clairement, l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants de Père Noël fera le job, ils auront des jouets au pied du sapin, mais pas obligatoirement du coup ce qu'ils auront demandé, ce qui est toujours une problématique parce qu'on sait que nos chères têtes blondes ont parfois les idées bien figées sur ce qu'ils veulent.
Merci beaucoup Philippe Guédon d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de King Jouets et vous êtes aussi coprésident de la FCJPE, la Fédération des marchands de jouets et articles pour enfants. Merci.
Merci à vous.
Il est 5h46, l'heure d'offrir un cadeau qui, lui, ne souffrira pas de pénurie, un cadeau à nos papilles. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Olivier, comme chaque jeudi, vous explorez un pan de notre patrimoine gastronomique. Et cette semaine, quel pan ? Vous nous parlez du pain, mais évidemment pas n'importe lequel.
Ben donc, je vous l'avais promis, après le jambon il y a 15 jours et le beurre la semaine dernière,
Voici donc le pain. Et s'il est bien un produit qui fait notre spécificité, notre fierté dans le monde, c'est bien notre pain, ou plutôt nos pains, devrais-je dire, tant les variétés sont nombreuses. Et elles ne cessent d'ailleurs de se multiplier. Le pain de qualité, hein, j'insiste, qui depuis quelques années revient en force, après l'ère du tout industriel qu'on a connu, vous savez, avec des pâtons réchauffés dans des pseudo-boulangeries. Eh bien, le vrai pain artisanal, et c'est une bonne nouvelle, fait son retour dans de nombreuses villes depuis une bonne dizaine ou une quinzaine d'années, on va dire. Apparemment, pourtant, il n'y a rien de plus simple à faire que du pain, hein, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Oui, mais voilà, comme toujours, c'est la qualité des produits de base qui fait toute la différence.
Et le produit de base, c'est évidemment la farine.
Eh oui, et en la matière, il faut quand même louer notre savoir-faire. Alors, plusieurs boulangers français que j'ai rencontrés, et qui ont ouvert notamment des boulangeries ailleurs dans le monde, m'ont confié qu'ils ne trouvaient pas ailleurs la même qualité de farine, ce qui explique que leur pain n'est pas aussi bon. Et si on parle de farine, il faut saluer le travail réalisé aujourd'hui par quelques producteurs, pas encore assez nombreux, autour de ce qu'on appelle les farines de blés anciens, des blés qui avaient été abandonnés, car difficilement mécanisables, trop hauts, ils avaient tendance à se coucher, et de rendement trop faible. Alors il faut savoir que ces blés anciens sont beaucoup moins riches en gluten que les blés modernes, et parmi ces farines dites anciennes, on trouve par exemple le Varonne, la Toucelle du Mayan ou le Rouge de Bordeaux.
L'autre grande tendance en matière de pain, Olivier, c'est le levain naturel qui fait aussi un retour en force.
Eh oui, car pour faire du pain, il faut déclencher un processus de fermentation, c'est-à-dire la transformation des sucres contenus dans la pâte en alcool, c'est tout bête, c'est comme le vin, hein, et en gaz carbonique, c'est ce qui permet au pain de gonfler. Alors on peut la déclencher assez rapidement avec de la levure chimique ou utiliser ce qu'on appelle un levain naturel. Alors il s'agit d'une flore microbienne composée uniquement de farine et d'eau, c'est une matière vivante. Et côté goût surtout, ça n'a rien à voir, car durant le temps de pousse qui est beaucoup plus long, vont se développer des arômes complexe. Je vous ai apporté un pain au levain naturel. Rien qu'à le sentir, comprend qu'on est dans un autre univers.
Ça embaume.
Et oui, et ce levain, il donne des notes un peu épicées, un peu mielées. Il donne de la profondeur, il donne du goût au pain. Et ça, c'est vraiment très important.
Qu'est-ce que c'est bon.
Ah oui, c'est délicieux.
Et ce levain, si on veut faire notre pain à la maison, eh bien, il est difficile à trouver ?
Non, alors ce levain, il faut le faire soi-même. Il y a des tutos sur Internet qui vous expliquent comment en 15 jours développer un levain. Et ensuite, on l'entretient, c'est-à-dire qu'on va rafraîchir, rajouter un petit peu d'eau et un petit peu de farine régulièrement. Et ce levain, ben, vous allez voir, dans votre frigo, il vit, il fait des petites bulles.
C'est de l'élevage.
C'est un élevage. Et puis, il n'y a plus qu'à rajouter la farine, l'eau et le sel, faire pousser, cuire. Alors, c'est un métier être boulanger, il faut bien le reconnaître. On s'est tous improvisé un peu boulanger pendant les périodes de confinement. Notre pain n'avait quand même rien à voir avec ceux des grands noms de la boulangerie. Je pense à Alex Croquet, par exemple, à Lille. Je pense à Mamiche à Paris, au pain d'Antan à Noyers, ou par exemple au pain de Saint-Géry à Lascabane, qui sont vraiment des pains absolument incroyables.
Il n'y a rien besoin de rajouter, on peut le manger tel quel en fait.
Mais si vous avez quand même un petit peu de beurre de la semaine dernière et un peu de jambon, croyez-moi, ça fait le job. Hein.
Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
L'info toute chaude qui sort du four, le journal permanent à 5h50 avec Alban Le Prince.
Le QR code sur le smartphone, les 12-17 ans soumis à partir d'aujourd'hui au pass sanitaire pour pouvoir continuer à aller au restaurant. Le 23 septembre, un peu plus de 6 adolescents sur 10 étaient totalement vaccinés. Nous vous le révélions hier sur Europe 1, le gouvernement travaillait sur plusieurs options pour alléger les factures alors que les tarifs réglementés du gaz augmentent de 12,6% demain, mesure que Jean Castex doit annoncer ce soir à la télévision. Il l'attendait depuis longtemps, le gouvernement l'a décidé. 209 000 employés du secteur de l'aide à domicile vont être augmentés de 150 à 300 euros mensuels à partir de demain, soit une hausse d'en moyenne 15%. Verdict attendu dans la matinée dans l'affaire Big Malion. 14 prévenus, dont Nicolas Sarkozy, seront fixés sur les dépenses jugées excessives de la campagne présidentielle de 2012. L'ancien président de la République encourt un an de prison et 3 750 euros d'amende.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. Et ce matin, Julien, nous sommes du côté de Toulouse.
Bonjour Lionel Laparade.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de la Dépêche du Midi, journal qui va se réinventer à partir de demain avec une toute nouvelle formule. Qu'est-ce qui va changer ?
Mais écoutez, c'est vrai que ça y est, on rentre vraiment dans la toute dernière ligne droite, hein, puisqu'on va travailler dès ce matin cette future édition à paraître donc vendredi en kiosque. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, écoutez, on transforme et on crée une nouvelle maquette après 10 ans de l'ancienne formule. C'est vrai qu'elle avait vieilli. Donc aujourd'hui, il s'agissait de revenir à des standards graphiques et typographiques qui soient plus modernes, mais aussi de proposer à nos lecteurs, eh bien, une maquette et un journal plus confortable en termes de lecture et plus clair, plus aéré. Et puis, on va réaffirmer à l'occasion de cette nouvelle formule, eh bien, notre attachement au territoire avec un deuxième cahier, puisque la Dépêche du Midi est faite de deux cahiers, un premier cahier d'information générale, nationale, internationale et puis régionale, et puis un deuxième cahier, là, au plus près de nos lecteurs, un cahier départemental, où là encore, eh bien, on va renforcer un petit peu ce lien de proximité avec nos lecteurs.
Est-ce que des pages plus aérées, des articles plus faciles à lire, ça implique une réduction de leur taille ?
Non, c'est vraiment un ajustement à la marge. Hein. On a estimé qu'il y a à peu près entre 5 et 10% de contenu en moins, autant dire rien du tout. Hein. Les journalistes rédigeront des articles plus concis, plus denses, donc pas moins d'informations, hein, bien sûr, mais j'insiste là-dessus parce que c'est important. Il faut proposer à nos lecteurs un journal mieux rangé, plus lisible et plus clair.
Qu'est-ce qui ne change pas ?
Eh bien, ce qui ne change pas, c'est nos deux cahiers, je vous le disais. Ce qui ne change pas, c'est notre attachement à notre région. Hein. Nous sommes un grand quotidien régional qui diffuse sur 10 départements. Et ça, on reste évidemment attaché à ces territoires hein, auxquels on consacre tous les jours plus de 200 pages environ. Et puis, ce qui ne change pas, c'est l'actualité donc vraiment ancrée dans les départements et un regard sur l'actualité nationale et internationale. La Dépêche du Midi, c'est un journal de proximité, mais c'est aussi un journal qui s'intéresse au monde qui l'entoure.
Est-ce que, pour l'occasion, vous avez prévu une particulière pour vendredi avec peut-être des invités de marque pour marquer le coup ?
Oui, en effet. Alors, je veux pas préjuger de l'actualité, hein, vous le savez bien, l'actualité peut tout bouleverser, mais on a en effet un invité de marque, il s'agira de Jean Castex, qui est en Occitanie jeudi, à l'occasion du Congrès des régions. Nous lui avons proposé, il a accepté de venir à la rencontre de nos lecteurs. Il s'agira là donc d'un face-à-face sans filtre. Je ne peux pas préjuger, bien sûr, des questions que lui poseront nos lecteurs. C'est à eux qu'il appartient de s'exprimer, mais j'imagine qu'il y aura bien sûr des questions sur l'aéronautique, sur le tourisme, et puis bien sûr sur la crise, sur le Covid. Tout ça fera très certainement l'objet de la discussion entre nos lecteurs et le Premier ministre.
Merci beaucoup Lionel Laparade de nous avoir donné un aperçu en avant-première de cette nouvelle formule de la Dépêche du Midi qui sera donc en kiosque à partir de demain. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci Julien.
Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Partir ou rester, dilemme pour les Britanniques installés en France. Ils ont jusqu'à ce soir pour déposer leur demande de permis de séjour. Ces âmes indispensables à partir du 1er janvier. Vous allez l'entendre, la plupart sont bien décidés à rester de ce côté de la Manche. L'Australie a traité la France avec mépris. Les mots sont sévères. Ce sont ceux d'un ancien Premier ministre australien. Il pointe du doigt le mauvais calcul de son successeur dans la crise des sous-marins. Et puis un vent de fronde souffle à nouveau sur l'éolien. Sur l'île de Léron, pêcheurs et habitants disent non à un parc offshore. Le problème, la zone choisie se trouve dans un espace naturel protégé. Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Should I stay or should I go ? L'heure du choix pour les Britanniques installés en France. Ils ont jusqu'à ce soir pour déposer leur demande de permis de séjour, un document obligatoire à partir du 1er janvier, conséquence du Brexit. Des Britanniques nombreux en Poitou-Charentes, en Dordogne, en Bretagne aussi. Le reportage de notre correspondante Sandrine Prioul.
Non, elle ne rentrera pas. Déby, comme le reste des 15 000 Britanniques installés en Bretagne, s'est certes sentie loin et isolée pendant la crise du Covid, mais elle a bien demandé son titre de séjour pour rester en France.
Et je leur souhaite bonne chance avec le Brexit. Vous avez vu ce bordel ? Non, ici, je suis comme en Angleterre quand j'étais enfant. C'est calme et on est intégrés.
Déby, l'employée de l'épicerie anglaise du village et sa patronne vous raconte des rendez-vous en préfecture jusqu'à lundi dernier pour toute la communauté britannique, le relevé d'empreintes digital, souvent aidé par Maggie, qui tient une sorte d'association et d'agora franco-anglaise.
Oui.
Même s'il y a l'accord entre les deux pays,
Les gens qui étaient vraiment inquiets sont déjà partis vivre en Angleterre.
Des départs assez sporadiques finalement et des titres de séjour assurent les autorités qui seront accordés à quelques exceptions près. Guarec, dans le village le plus anglais du centre de la Bretagne, Sandrine Prioul, Europe 1.
Eux n'ont pas besoin d'un permis de séjour, mais bien d'un permis de pêche. Après des mois de négociations post-Brexit, les marins français à bout de patience. Les autorités britanniques ont refusé 75 licences à nos pêcheurs, décision jugée inacceptable par Paris.
Et on entendra dans une dizaine de minutes la colère de la ministre de la Mer, Annick Girardin.
La pêche post-Brexit, donc, et la crise des sous-marins aussi. Autre dossier où Paris et Londres ne se comprennent plus. Dans cette affaire, la France peut toutefois compter sur un allié inattendu, l'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Il a accordé un entretien au National Press Club de Canberra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec son successeur, coupable de la trahison du siècle, Jean-Sébastien Soldaini.
Malcolm Turnbull n'est pas n'importe quel Premier ministre australien. C'est son gouvernement qui a signé le contrat avec la France. Une France humiliée selon lui, car il estime que Scott Morrison a trompé Paris délibérément.
There is outrage.
C'est un affront, le pire des affronts. Parce que cela veut dire que l'Australie n'est plus digne de confiance. Or, la confiance est une des bases de notre sécurité nationale. C'est un épisode désastreux pour notre politique étrangère. Et la conséquence, c'est que cela va jouer en notre défaveur pendant très longtemps.
Au-delà du manque de respect, il pointe du doigt le mauvais calcul stratégique de son successeur. L'Australie, dit-il, n'aura pas de nouveaux sous-marins avant 20 ans. Et ils coûteront plus cher. La leçon est faite avec au passage une petite pique. Malcolm Turnbull affiche sa complicité avec Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont parlé au téléphone quand Scott Morrison, l'actuel Premier ministre, se plaint de ne pas avoir encore discuté avec le président français.
Jean-Sébastien Soldaini. C'est encore l'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy. Le tribunal de Paris rend son délibéré aujourd'hui dans l'affaire Big Malion. L'ancien président risque une nouvelle condamnation. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme contre Nicolas Sarkozy, soupçonné de fraude dans les comptes de sa campagne électorale de 2012.
Une rencontre avec la mort, témoignage glaçant de l'un des rescapés des attentats du 13 novembre 2015. Depuis le début de la semaine, les parties civiles prennent la parole au procès.
Aujourd'hui, les victimes des terrasses. Hier, les blessés du Stade de France. 3 explosions. Tina était à quelques mètres. Elle a témoigné hier devant les accusés.
Ce calvaire, en fait, si vous voulez, du 13 novembre, on le porte sur nous. On le porte parce qu'on est handicapé. Et j'ai été blessée, justement, je suis handicapée du bras. J'ai été touchée dans le dos et j'ai subi une ablation au niveau du poumon. On va dire que je suis là par miracle, je fais partie des victimes les plus touchées. Je leur ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'ils l'ont entendu. C'est tout ce que j'espère. Ils étaient plus forts que nous. Mais ça ne nous empêchera pas, en fait, si vous voulez, de nous aimer les uns les autres et de continuer à vivre et à nous exprimer et de dessiner, en fait, nos ressentis. Voilà.
Le témoignage de Tina blessée au Stade de France au micro de Johanna Chabas.
Avis de tempête sur les éoliennes sur l'île de Léron. Pêcheurs et mareyeurs disent non à un parc éolien offshore. Projet avec une 50aine d'éoliennes d'ici 2 ans, une 100aine même à terme.
À condition que les habitants approuvent le projet, une concertation s'ouvre justement aujourd'hui. Et le sujet est explosif puisque la zone choisie par l'État couvre des espaces naturels protégés. Une aberration pour Laurent Bordereau, enseignant, chercheur en droit des côtes à l'Université de La Rochelle.
On pouvait difficilement choisir un pire site d'implantation. Le projet il serait localisé au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne sur la protection des oiseaux, mais également au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive sur les habitats naturels. Et de surcroît, pour couronner le tout, on se situe en plein parc naturel marin, lequel a été créé en 2015, et par ailleurs à proximité de réserves naturelles nationales. Donc le développement des énergies marines renouvelables, il ne peut se faire que dans le respect des aires marines protégées. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il paraît quand même assez invraisemblable ce projet.
Laurent Bordereau, enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, joint par Louise Salé pour Europe 1.
Ça commence à devenir une habitude. Hein.
Alors cette fois, Cette fois, c'est la bonne. Et je sais que cette information vous tient particulièrement à cœur, Julien. Free Britney, ce n'est plus seulement un hashtag sur Twitter. Ça y est, Britney Spears est bel et bien libérée de la tutelle de son père. Mesure considérée comme abusive par un tribunal de Los Angeles hier. Alors, la chanteuse reste en revanche sous tutelle, mais confiée cette fois à des professionnels jusqu'à la prochaine audience. On aura donc l'occasion d'en reparler, Julien.
On a hâte. C'était le journal de Romane. Ok, merci Romane.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence par la défaite de Lille en Ligue des Champions.
Oui, les Lillois ont été battus par le Salzbourg hier soir. Défaite 2-1, 2 buts encaissés sur pénalty. Malgré une bonne entame de match et une réaction d'orgueil à 2-0 contre eux, les nordistes rentrent d'Autriche fanis. La double confrontation à venir contre le FC Séville sera cruciale pour l'avenir européen du LOSC. Mais avec un seul point pris en deux matchs, tout se complique déjà.
Dans les autres résultats de la soirée,
le Barça est en crise, hein, giflé 3-0 par le Benfica Lisbonne. Le coach catalan Ronald Koeman semble plus que jamais menacé. Le choc pour la Juventus de Turin, tombeuse du champion d'Europe en titre Chelsea, 1-0. Et un record pour finir, un de plus pour Cristiano Ronaldo, qui devient l'homme à avoir disputé le plus de matchs de Ligue des Champions, 178 pour être précis. Et il a fêté ça en marquant le but de la victoire contre Villarreal, victoire de Manchester United, 2-1.
La Coupe d'Europe continue ce soir avec l'Europa League.
Oui, trois clubs français sont sur le pont. Un Marseille qui accueille les Turcs de Galatasaray au Vélodrome dans un choc entre deux des publics les plus chaud d'Europe. Monaco qui se déplace aux Pays-Bas pour affronter la Real Sociedad et enfin Lyon qui reçoit les Danois de Brøndby, un adversaire méconnu mais qui espère surfer sur la réussite de la sélection danoise à l'Euro. Écoutez le milieu lyonnais Xherdan Shaqiri.
Je connais Brøndby. Je suis aussi très bon en géographie donc je connais la ville. Bien sûr, je suis beaucoup le foot. Je ne regarde pas tous les matchs de Brøndby. Je ne connais pas non plus tous les joueurs de l'équipe. Mais je sais le travail accompli par le football danois car j'ai joué plein de fois contre l'équipe nationale danoise. Ce sera un match dur, ils sont costauds physiquement et nous avons vu aussi à la vidéo qu'ils avaient des qualités dans leur équipe. Nous devrons donc évidemment faire attention.
À noter un dernier match ce soir en Ligue Europa Conférence. Cette fois, Rennes affronte le Vitesse Arnhem. Et puis, retour en France avec une date, le 27 octobre. Nice et Marseille ont de nouveau rendez-vous après leur match interrompu fin août. Ce sera à 3.
Alors, on reste en Europe, Martin, avec du basket.
Oui, c'est le grand début de l'Euroleague, la Ligue des champions du basket, avec deux clubs français cette année. Une première depuis 2015, l'ASVEL, un habitué, et le petit nouveau, Monaco, qui accueille les Grecs du Panathinaikos dès ce soir.
Merci, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Alors je retiens juste avant ce chiffre, 178 matchs de Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo. Je viens de faire un rapide calcul, c'est l'équivalent de 5 saisons de Ligue 1. Voilà, c'est dit. 6h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La ministre de la Mer sera avec nous, Annick Girardin, très remontée alors que Londres continue de bafouer l'accord sur le Brexit. Résultat, des dizaines de bateaux de pêche français ne peuvent toujours pas lancer leur filet dans les eaux britanniques. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h11, bon réveil, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La bataille navale reprendre plus belle entre Paris et Londres pour faire respecter l'accord du Brexit. Il prévoit que les bateaux de pêche français puissent avoir accès aux eaux britanniques, ce qui n'est pas toujours le cas pour une partie d'entre eux. On en parle, Julien, avec notre invitée, la ministre de la Mer.
Bonjour Annick Girardin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Madame la Ministre. C'est aujourd'hui qu'expirent des dizaines de licences provisoires accordées depuis le Brexit aux pêcheurs français pour qu'ils puissent jeter leurs filets dans les eaux britanniques, et notamment au large de l'île anglo-normande de Jersey, dont le gouvernement local a refusé ces dernières heures de valider les dossiers de 75 bateaux français. Quelle est votre réaction ?
Alors, je crois que ce qu'il faut dire et bien comprendre, c'est que ça fait 9 mois que nous préparons et nous alimentons en réponse la Commission européenne et donc Jersey, puisque votre question est sur Jersey, mais ces 9 mois d'échanges, nous venons de les avoir à la fois sur les 6-12 000 et sur les eaux de la baie de Granville, c'est-à-dire concernant Jersey. Après 9 mois d'échéance, la réponse qui nous arrive aujourd'hui, qui nous est envoyée par les Britanniques, c'est une liste qui est inacceptable en l'état parce qu'elle ne répond absolument pas à nos demandes qui ont été sélectionnées, étayées, avec lesquelles nous avons travaillé avec les pêcheurs, les organisations professionnelles, la France bien sûr, la Commission européenne. Ce retour est inacceptable, c'est une véritable provocation aujourd'hui du Royaume-Uni.
Est-ce qu'en conséquence, vous allez lancer des mesures de rétorsion ?
Alors, on va analyser bien sûr l'impact de ces propositions, bateau par bateau, parce que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour l'accompagnement ensuite. Mais ce qui est très clair, et c'est décidé déjà avec le président de la République, avec le Premier ministre, qu'il est hors de question d'accepter cette offre carrément indécente, c'est le mot que je veux utiliser. Je crois que les Britanniques aujourd'hui ont besoin de comprendre qu'au-delà de ces licences, c'est un refus de l'application de l'accord qu'ils ont eux-mêmes signé.
Il y a des sanctions qui sont prévues dans cet accord en cas de non-respect. Est-ce que vous allez saisir l'Union européenne pour qu'elle les active, ces sanctions ?
Alors, je souhaite que la France, bien entendu, et on va le faire, saisisse la Commission européenne. Mais au-delà de ça, je crois qu'il est vraiment question là maintenant d'une solidarité européenne. Il est souhaitable que les Européens, et notamment les pays pêcheurs, puissent ensemble demander à la Commission, compte tenu de l'attitude de la Grande-Bretagne, d'activer les mesures de rétorsion prévues dans l'accord, bien entendu, qui concernent de nombreux sujets et qui doivent être maintenant mis en application. Mais en franco-français, ou du moins du côté français, il est important aussi que nous fassions la même démonstration, c'est-à-dire s'il y a besoin de mesures de rétorsion, eh bien voici ces mesures de rétorsion également en France.
Annick Girardin, est-ce que le gouvernement britannique prend en otage nos pêcheurs pour vous mettre la pression sur d'autres sujets ? Je pense par exemple à la crise migratoire dans la Manche et le nombre de traversées qui se multiplient vers l'Angleterre.
Alors, votre analyse n'est pas complètement fausse. Il y a de notre côté cette même crainte, c'est-à-dire que la pêche soit utilisée pour faire avancer d'autres dossiers, et notamment sur la crise migratoire. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'en jouant à ça, les Britanniques montrent qu'ils n'appliquent pas l'accord qu'ils ont eux-mêmes signé. Et donc, nous avons aujourd'hui toute légitimité, avec ces derniers événements, avec l'annonce de la faiblesse des licences octroyées aux Français dans la baie de Granville comme dans les 6-12 000 du Royaume-Uni, eh bien, qu'il est aujourd'hui temps de faire agir l'Europe, de faire agir la France avec, bien entendu, le gouvernement et les régions, que les professionnels puissent également faire savoir que nous sommes tous mécontents et que cette solidarité, elle est bien sûr professionnelle, elle est française, elle est européenne. L'Europe est là pour protéger les citoyens européens et donc protéger les pêcheurs.
On se souvient qu'en mai dernier, des dizaines de bateaux avaient manifesté au large de l'île de Jersey sous la surveillance de deux navires de guerre de la Royal Navy. Est-ce que vous craignez que ce genre de scène se reproduise avec tous les risques qu'elle comporte ?
Alors, vous savez, les pêcheurs aujourd'hui, et plus largement la filière pêche, elle est en colère. C'est une colère profonde, c'est un sentiment de mépris. J'entends que certains, effectivement, et vous le dites, pensent à bloquer des ports. Et je ne peux pas accepter cela. Je leur dis, faites-moi confiance, nous allons faire front commun ensemble. Nous avons un calendrier d'action qui sera présenté aux professionnels en début de semaine prochaine. C'est la tâche qui m'a été confiée avec une action européenne, une action nationale, bien entendu en direction des Britanniques et également de nos voisins de Jersey. Avec effectivement l'annonce des mesures de rétorsion, ce que j'ai demandé moi, c'est que ce travail qui nécessite qu'on ait des relations avec les autres pays européens, qui nécessite qu'en franco-français il y ait une interministérielle, qui nécessite qu'avec les professionnels nous nous accordons, eh bien je souhaite que ce soit les 15 jours qui sont devant nous, qui soient consacrés à ce travail qui sera ensuite exprimé directement et très directement au Royaume-Uni. Et j'ai envie de dire en conclusion, et je sais ce que pensent les pêcheurs, mais de le faire à notre rythme, à mon rythme, je veux qu'ils me fassent confiance, et bien je dis simplement « I want my licence back ».
Merci beaucoup Annick Girardin, ministre de la Mer, d'avoir été avec nous ce matin. On a noté la référence à Margaret Thatcher en 1979 qui avait dit « I want our money back ». On va suivre avec vous, comme vous, ce dossier attentivement. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actu de ce jeudi avec Alban Le Prince.
C'est une véritable provocation du Royaume-Uni, déclaration d'Annick Girardin, la ministre de la Mer ce matin sur l'antenne d'Europe 1, alors que les licences de pêche provisoires accordées depuis le Brexit aux Français expirent aujourd'hui dans les eaux britanniques. La ministre appelle les pays européens à opposer un front commun au Royaume-Uni et demande des mesures de rétorsion. Le vaccin ou le test, il va falloir choisir pour pouvoir continuer à aller au restaurant. Entrée en vigueur du pass sanitaire pour les 12-17 ans ce matin. Verdict du procès de l'affaire Big Malion prévu à 10h. Nicolas Sarkozy et 13 autres prévenus sont jugés pour les dépenses jugées excessives de la campagne présidentielle de 2012.
On en vient à votre partition, Omblin, qui met en musique ce matin un groupe considéré comme l'un des poids lourds du rock progressif. Avant de se retrouver sur les meilleures compilations des années 80, les musiciens de Yes ont fait les grandes heures de ce genre pétri d'ambition symphonique.
Effectivement, Julien, donc avant de mettre tout le monde d'accord avec le titre Owner of a Lonely Heart, et on va y revenir, Yes est une authentique démonstration de virtuosité technique, un projet construit autour des harmonies vocales soutenues par une solide base instrumentale. Each day so satisfied, I'm on my way. Take a straight and strong.
Yes est fondé à la fin des années 60 en Angleterre.
Et oui, pour les puristes, le rock prog est essentiellement anglais. Le socle du groupe est composé de John Anderson avec sa voix au perché, du guitariste Steve Howe et du bassiste Chris Squire et du batteur Alan White. Mais en 50 ans d'existence, Yes a connu de multiples changements.
Et donc au même moment que Pink Floyd, Yes se lance dans l'exploration d'un nouvel univers sonore.
Et en 3 albums, entre 1968 et 1972, il va inventer le rock progressif, ce courant musical extrêmement hétérogène qui se veut aussi complexe que la musique classique, mais joué avec des instruments de rock traditionnels. Les morceaux sont longs comme des suites, les albums sont conceptuels et surtout le rythme est, disons, inhabituel. Il fluctue, le rock progressif s'écarte de la mesure classique à quatre temps. Le rock grandiose de Yes est à son apogée lorsque sort le disque Tales from Topographic Oceans en 1974, l'œuvre majeure du groupe follement épique. C'est un double 33 tours avec une seule piste d'une vingtaine de minutes sur chaque face.
Ah oui, quand même, on a l'impression que du coup que le groupe est sans cesse dans la surenchère.
Voilà, produire à chaque fois un disque plus performant que le précédent, toujours plus technique, quitte à perdre une partie de son audience, suit alors une sérieuse période de doute qui mène les musiciens vers une inévitable séparation.
En mars 1980, le chanteur et fondateur John Anderson s'en va.
Il est remplacé par le chanteur et producteur Trevor Horn. Yes laisse tomber les morceaux à rallonge et décide de se concentrer sur un rock plus pop, plus tendance et dansant. L'album 90-125, dont le nom fait référence au numéro de catalogue attribué au disque, est un succès commercial sans précédent pour le groupe. Il symbolise la renaissance de Yes. Lonely Heart, c'est le plus grand succès de Yes en 1983. Le groupe sera de retour demain avec un nouvel album baptisé The Quest, parce que oui, Yes est toujours en activité.
Thank you very much. Merci Omblin.
Plus plaisir.
On dit Yes également à la suite de votre matinale. Dimitri Pavlenko sera des nôtres dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin.
Bon réveil et bienvenue, il est 6h27 sur Europe 1 et c'est l'heure pour nous, Ombline, de nous éclipser.
Oui, et de vous donner rendez-vous demain dès 5h. D'ici là, la matinale se poursuit, évidemment, avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour à vous.
Ça va, la forme?
Toujours.
J'aime bien vous demander comment vous allez.
On va toujours très bien.
À 6h27.
Généralement, c'est déclinant selon le jour de la semaine.
Ah oui, c'est la fin de l'après-midi pour vous. Hein. Ouais, ça, c'est très particulier. Ouais. On est à l'heure de Dubaï, voire de Pékin, quand on est en matinale. Bonjour à toutes, bonjour à tous.